Marie-Adile Bouabé, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Donc, un salon agri-éthique qui a pour but de présenter un peu le développement agricole et agroalimentaire, et puis aussi artisanal de la Côte d'Ivoire.
Disons qu'au début, c'était uniquement la Côte d'Ivoire parce que la Genève était l'île de Mical, capitale européenne de la culture. Et que chaque pays montrait son savoir-faire. Et nous, on a présenté la Côte d'Ivoire. Et qui dit Côte d'Ivoire, on sait que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Alors, on a choisi nos deux produits nobles qui sont le café et le cacao. Donc, pendant ces 4 jours, on a présenté le café sous toutes ses formes. De la production, de la semence, de la récolte et à la bouche, si vous voulez. Donc ça a été vraiment 4 journées formidables de dégustation et aussi de festivités. Maintenant, les coopératives même ont voulu que ce soit encore plus sérieux. Donc on a de senteurs saveurs, on dit maintenant salon agri-éthique de la production agricole et artisanale des pays émergents.
Donc vous êtes en relation avec les coopératives de Côte d'Ivoire et peut-être d'autres pays également ?
D'autres pays. Là, il y a une coopérative du Burkina qui va montrer le savoir-faire de l'artisanat, surtout le bronze du Burkina. Et cette coopérative sera représentée ici par des partenaires qu'ils ont ici à Lille. Il y a aussi une coopérative qui va venir du Maroc qui fait de l'huile essentielle avec l'huile d'argan, du beurre de karité et autre chose pour le bien-être. Il y a aussi une coopérative du Maroc qui fait des bijoux aussi bien berbères, touareg et ainsi de suite. Mais c'est typiquement africain ces bijoux-là. Et la chance qu'on a, c'est que la chambre des métiers de l'artisanat va exposer aussi, faire la démonstration du chocolat, coulis du chocolat et tout ça pendant ces 3 jours d'exposition.
L'idée, c'est bien sûr de développer le marché pour les producteurs et notamment les coopératives.
Voilà. La chance qu'on a cette année, c'est qu'il y a une grande coopérative de femmes qui va venir de Côte d'Ivoire. Elles sont 3700 membres dans cette coopérative de différentes régions de la Côte d'Ivoire. Ils vont venir à 4 pour représenter leur coopérative et puis parler d'elles-mêmes, bien sûr. Et à cette coopérative, on a trouvé une structure d'appui ici économique pour pouvoir bien développer et bien encadrer leurs objectifs.
En quoi les femmes occupent maintenant la scène au niveau de l'agriculture? Est-ce qu'elles ont un rôle important? Quelle place on leur laisse en fait?
Oui, bon, c'est pas du chauvinisme que je veux faire, hein, mais les femmes sont plus. Je voudrais vraiment dire un mot fort pour dire que elles sont sérieuses dans tout ce qu'elles font. Elles sont vraiment sérieuses et on voit rapidement le résultat de leur travail. Et je pense que c'est ce qui pousse tous ceux qui ont envie de les aider à les aider spontanément. Et en moins de 10 ans, ces coopératives se sont de plus en plus fructifiées par rapport au bravo et au sérieux que les femmes mettent dans leur travail.
Au-delà du travail, il y a aussi l'idée de l'entraide, de la solidarité chez les femmes.
Oui, surtout. Je prends encore le cas de la Côte d'Ivoire. La crise a fait que l'agriculture avait vraiment pris un coup. Et depuis l'année dernière, il y a tout un réseau de femmes qui se met en place pour aller de région en région pour motiver les femmes à reprendre leur activité. Et c'était au mois de décembre de l'année dernière, de novembre à décembre, que les femmes avaient fait cette campagne-là. Et lorsque je suis partie au mois de mai, au mois de mai, il y a eu, ça portait fruit. Parce qu'après, ils ont montré à la télé ces champs qui avaient été abandonnés, qui ont été repris et motivé les femmes qui étaient en train de travailler à reprendre leur activité. Et ça se passe bien.
Donc, dans la société ivoirienne, on peut dire qu'elles prennent une place de plus en plus importante. Est-ce qu'elles se sentent citoyennes, par exemple?
Oui, bien sûr, parce que ce qu'on sait et ce que moi j'ai remarqué, c'est que la femme prend vraiment une place très importante, même politiquement, hein. elle prend une place très importante politiquement aussi, dans les activités économiques aussi, et puis dans l'éducation, bien sûr, des enfants. Ça, c'est depuis très longtemps.
Comment se fait le rapprochement entre donc la Côte d'Ivoire notamment, voire d'autres pays dont vous avez parlé, et la région Nord-Pas-de-Calais?
Ça se porte bien parce que moi je suis ici depuis 83 et ce que j'ai remarqué c'est que la diversité de culture est ancrée dans le mœurs des gens du Nord. Les gens sont très accueillants et ils sont friands de savoir ce qu'est l'autre. Et ça j'ai remarqué parce que, bon, en tant qu'étrangère, c'est des choses qui se remarquent facilement. Et je pense que tout un chacun a sa place ici dans le Nord. Et quand on vient t'intégrer, on l'est. Quand on a ça dans la tête, qu'on veut réussir, qu'on veut apprendre, qu'on veut positiver sur plusieurs choses, on réalise.
Alors, c'est vrai que cette approche de présentation de produits agricoles, notamment le café, le chocolat et d'autres choses qu'on mange ou qu'on boit, c'est peut-être une bonne clé d'entrée.
Je pense, parce que qui ne boit pas de café, qui ne mange pas de chocolat. Mais d'où ça vient, comment c'est fait, tout le circuit, les gens ne le savent pas trop. Alors quand on voit un enfant prendre une cabosse de cacao et de regarder, mais tout simplement... Que la peau, et après quand on casse et on regarde dedans tout ce qui est fève et la grappe et onctueux, parce que c'est du lait au début, c'est onctueux, l'enfant découvre. Et là au moins il sait ce qu'il mange à la fin comme chocolat. Et la fève, quand elle est séchée, quand on la casse, on voit le cacao, c'est amer, mais le chocolat il est bien, il y a plein de mélanges de sucre dedans, ça donne un autre goût, quoi.
Donc là, vous souhaitez bien sûr passer de cette phase de communication auprès des enfants, de la population, à aussi l'intérêt que pourraient porter les entreprises de la région, les chocolatiers, etc., les artisans.
Voilà, disons que ça fait partie de notre but aussi, parce que bon, il y a beaucoup de choses qui ont pris un coup quand même en Afrique, mais nous, on voudrait se cantonner sur l'agriculture. Parce que dans tous ces pays où il y a eu la guerre, le mouvement économique a beaucoup baissé. Et quand on prend aussi le cas de la Côte d'Ivoire, sachant que la richesse de ce pays est basée sur l'agriculture, que ça a été bafouillé quelque part, parce qu'il y a eu quand même des années de retard et qu'il faut vraiment tout recommencer. Je pense que faut rendre de l'utile à l'agréable. On a trouvé le système. C'est-à-dire apprendre aux enfants ce que c'est que l'agriculture des pays émergents et ici, en même temps, montrer le produit fini. Je crois que c'est compatible.
Ouais. Donc, la Côte d'Ivoire, d'une manière générale, l'Afrique de l'Ouest, quels sont ses débouchés commerciaux? Vers quel pays elle oriente ses exportations?
Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, c'est un pays francophone. Donc le plus gros contrat, c'était beaucoup plus en France ici, parce qu'il y a eu des signatures depuis les années 60, hein, si je peux dire. Mais maintenant, on essaie d'élargir avec les autres pays aussi qui sont riches, et c'est ainsi que petit à petit, on trouve beaucoup plus de débouchés dans les autres pays. Mais sinon, le premier client, si on peut le dire comme ça, et le premier pays ami de la Côte d'Ivoire, c'est la France, économiquement et dans tous les domaines, dans plusieurs domaines d'ailleurs.
C'est vrai qu'on assiste aussi à une percée de la Chine quant à développement d'intérêts qui viennent se porter sur l'Afrique, d'une manière générale, plutôt l'Afrique de l'Est?
Non, je pense que c'est toute l'Afrique qui subit ça. Moi, je dis subir parce que, la qualité n'est pas trop là pour tout ce qui vient de Chine. Parce que je prends le cas des médicaments que les Chinois vendent dans les rues. Ça tue les Ivoiriens n'importe comment, et moi ça me bouffe le cœur. Enfin, il y a plein de petites choses qui se passent et qui sont pas bien. quand on veut apprendre à un pays quelque chose de nouveau, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit aussi clair, quoi. Mais quand c'est des choses comme ça, comme exemple, hein, c'est un exemple que je viens de vous donner. Des médicaments, on ne sait pas d'où ça vient, mais on soigne quand même les gens avec. On n'est pas médecin, mais on opère. On n'est pas. Il y a plein de choses, de vilaines petites choses comme ça, et c'est monnaie courante.
Depuis les troubles qui ont eu lieu, d'ailleurs, vous pouvez peut-être nous dire si la situation est très calme maintenant, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a eu un changement d'attitude entre les Ivoiriens et les Français par rapport aux Français ou par rapport aux Occidentaux d'une manière générale, je ne sais pas.
Moi, je dis que les médias en ont trop fait parce que de vous à moi, on n'a jamais, quand il y a eu cette crise, toi disant que les Ivoiriens sont xénophobes, qu'ils ont chassé les Français, on n'a pas eu de preuves palpables, soit disant que oui, il y a telle personne qui a été violée, telle personne, tel nombre de personnes civiles qui sont mortes, tel nombre de civils qui ont été violés, et ainsi de suite. C'est-à-dire des choses concrètes. On n'a pas vu ça. Tout ce que les Français ont fait, ils ont pris leurs bagages, ils sont partis, comme dans tous les pays où il y a des mouvements. On protège les gens de chez soi. C'est ce que l'armée française a fait. Point stop. Mais de là à dire que l'Ivoirien est xénophobe parce qu'il n'aime pas le français, il est anti-français, ce qu'on a fait, c'est surtout ce que les étudiants ivoiriens ont pu faire, c'est avoir cette envie de sauver son pays. Et ça, les étudiants ont mis ça dans leur tête, c'est-à-dire, il ne faut pas de guerre, on ne veut pas d'armes. Et c'était beaucoup plus. Tous ceux qui avaient les armes, on n'a pas d'usine d'armes en Côte d'Ivoire. Enfin, il y a plein de choses qui se sont passées et que franchement, j'ai envie d'oublier. Parce que je vais vous dire des choses, mais des choses que vous n'allez pas vraiment comprendre parce que vous n'avez pas vécu ça. Et que c'est seulement les médias qui vous ont dit beaucoup de choses. Et c'était des choses que, bon, cachées ou pas cachées, on ne saura jamais la vérité. Voilà.
La situation, d'un point de vue de la démocratie, est-elle en train d'évoluer ?
Beaucoup. Beaucoup évolué parce que je vais vous dire une chose qui va peut-être vous faire rire. Actuellement, en Côte d'Ivoire, il y a 150 partis. 150 partis, pourquoi ? Voilà, ça c'est un exemple. 150 partis, mais pourquoi ? C'est la démocratie. Voilà.
On a des élections qui sont prévues bientôt ?
Oui. On a franchement un président qui est formidable. Il est soutenu par le peuple et notre souhait à tous. Si vous n'avez pas eu vraiment de guerre à proprement dit, c'est parce que ce président n'est pas sanguinaire. Les gens l'ont traité d'anti-français et tout ça, mais il n'est pas sanguinaire. Pourquoi ça n'a pas éclaté ? C'est toujours la personne qui a en tête qui gère. Hein. S'il dit, bon, les armées, allez, frappez-moi ou bien tuez-moi, tout ce monde là-bas. Vous allez voir qu'on sera encore en guerre en Côte d'Ivoire. Mais il disait toujours, ne vous trompez pas. Hein, soyez sages, on a déjà vu tout ça dans les autres pays. Ne nous entretuons pas, ne détruisons pas nos pays, et ainsi de suite. Et ça, c'est remonté beaucoup dans la tête de tout un chacun.
Est-ce que pour vous, la notion, j'allais dire, française de développement durable, ça a vraiment un sens ? Et quelles sont les conditions pour améliorer à la fois le sort des habitants, de la population, et d'assurer des échanges harmonieux et une durabilité à ces échanges ?
Ah, ça c'est vraiment un point assez pointueux, parce que ce côté-là, bon, il faut vraiment le développer de plus en plus. C'est que ça existait, mais il faut maintenant le montrer. Il faut maintenant aller plus dans les détails, si vous voulez. Parce que, bon, je prends le cas des gens qui font bien leur champ et qui cherchent à continuer à développer leur champ avec plusieurs façons d'évoluer pour que les champs durent d'année en année. Ça fait partie du développement durable, mais il faut maintenant bien montrer les outils pour que ça soit tel et que les pays occidentaux montrent vraiment ce que c'est que le développement durable en encadrant toutes ces régions ou bien toutes ces personnes qui ont vraiment envie de développer leur production dans le cadre du développement durable, quoi.
Alors, les terres de Côte d'Ivoire sont très fertiles. Il y a des fruits ou des légumes qui sont assez énormes parfois. Pourquoi on ne les voit pas sur les marchés français?
Ben, je ne sais pas. Il y a peut-être un quota. Oui, d'accord. Il y a certainement un quota. Vous dites que bon, en Côte d'Ivoire, tel tonnage de production vivrière rentre en France et ainsi de suite, certainement. Mais ce que je sais, c'est que les produits vivriers ou bien toutes sortes de produits qui doivent mûrir ne mûrissent pas à fond. Sinon, ça pourrit. Les gens mettent facilement 15 à 20 jours par bateau pour faire venir les fruits et légumes. Donc, on n'a pas vraiment le produit fini, si vous voulez. Je prends le cas de la mangue qui arrive ici, toute verte. Alors que la mangue, normalement, quand tu l'ouvres, ça coule déjà. Ça veut dire que c'est bien mieux. L'avocat aussi, c'est pareil, c'est juteux. Mais ici, l'avocat, ben, il n'est pas encore mûr. Puis on le cueille, on le met. Donc, ça n'a pas vraiment les vrais goûts. Ce qu'on mange ici est assez superficiel.
Donc, il faut venir en Côte d'Ivoire.
Je vous invite.
Merci, parce le rendez-vous est pris.
Oui, parce que vraiment, notre souhait aussi, c'est de faire venir des gens à découvrir ces grands champs de café, de cacao, le côté tourisme, on y pense. Hein. Voilà.
Merci, Marie-Dine.
Merci, monsieur.